Aristote, Métaphysique, livre 5, chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Principe se dit d'abord du point de départ de la chose. Ainsi, le principe de la ligne, du voyage. C'est à l'une des extrémités que réside ce principe. Autre principe lui correspond à l'extrémité opposée. Principe se dit ensuite de ce par quoi chaque chose se fait le mieux. Exemple, le principe d'une science. En effet, il ne faut pas toujours commencer par la notion première et le commencement de la science, mais par ce qui peut faciliter l'étude. Le principe est encore la partie essentielle et première d'où provient une chose. Ainsi, la carène est le principe du vaisseau, et le fondement celui de la maison. Et le principe des animaux, c'est, suivant les uns, le cœur, suivant d'autres, le cerveau, suivant d'autres, enfin, une autre partie quelconque du même genre. Autre principe. La cause extérieure qui produit un être, ce en vertu de quoi commence le mouvement ou le changement. Autre principe, l'être selon la volonté duquel se meut ce qui se meut et change ce qui change. Tels sont dans les états les magistrats, les princes, les rois, les tyrans. On appelle encore principe les arts et entre tous, les arts architectoniques. Enfin, ce qui a donné la première connaissance d'une chose est dit aussi le principe de cette chose. Les prémices sont les principes des démonstrations. Les causes se prennent sous autant d'acceptions que les principes, car toutes les causes sont des principes. Ce qui est commun à tous les principes, c'est qu'ils sont la source d'où dérive ou l'existence, ou la naissance, ou la connaissance. Mais parmi les principes, les uns sont dans les choses, les autres sont en dehors des choses. Voilà pourquoi la nature est un principe, ainsi que l'élément, la pensée, la volonté, la substance. La cause finale est dans le même cas, car le bon et le beau sont pour beaucoup d'êtres et principes de connaissance et principes de mouvement. Chapitre 2. On appelle cause ou bien la matière dont une chose se fait, les reins est la cause de la statue, l'argent celle de la coupe, et en remontant plus haut, les genres auxquels appartiennent l'argent et les reins, ou bien la forme et le modèle ainsi que leur genre, c'est-à-dire la notion de l'essence, la cause de l'octave, c'est le rapport de 2 à 1, et en général, le nombre et les parties qui entrent dans la définition de l'octave. Cause se dit encore du premier principe du changement ou du repos. Celui qui donne le conseil est une cause, et le père est la cause de l'enfant. Et en général, ce qui fait est cause de ce qui est fait. Ce qui imprime le changement l'est de ce qui subit le changement. La cause est aussi le but, et j'entends par là ce en vue de quoi une chose se fait. La santé est la cause de la promenade. Pourquoi se promène-t-on? C'est pour se bien porter, répondons-nous. Et en parlant ainsi, nous pensons avoir assigné la cause. Enfin, on nomme cause tous les intermédiaires entre le moteur et le but. La macération, par exemple, la purgation, les remèdes, les instruments du médecin sont des causes de la santé, car tous ces moyens sont employés en vue du but. Ces causes diffèrent toutefois entre elles, en ce qu'elles sont les unes des instruments, les autres des opérations. telles sont à peu près les diverses acceptions du mot « cause ». Il résulte de cette diversité d'acceptions que le même objet a plusieurs causes non accidentelles. Ainsi, la statue a pour cause et l'art du statuaire et les reins, non pas par son rapport à quelque autre objet, mais en tant qu'elle est une statue. Mais ces deux causes diffèrent l'une de l'autre. L'une est cause matérielle, l'autre cause de mouvement. Les causes peuvent aussi être réciproques. L'exercice, par exemple, est cause de la bonne santé, et la bonne santé l'est de l'exercice. Mais avec cette différence, que la bonne santé l'est comme but et l'exercice comme principe de mouvement. Enfin, la même cause peut quelquefois produire les contraires. Ce qui a été par sa présence cause de quelque chose est dit souvent par son absence cause du contraire. Nous disons, le pilote a par son absence causé le naufrage du vaisseau, parce que la présence du pilote eût été une cause de salut. Mais dans ce cas, les deux causes, la présence et la privation, sont l'une et l'autre cause de mouvement. Toutes les causes que nous venons d'énumérer se réduisent aux quatre sortes de causes principales. Les éléments pour les syllabes et la matière pour les objets travaillés, le feu, la terre et les principes analogues pour les corps, les parties pour le tout, les prémices pour la conclusion sont des causes en tant qu'ils sont ce d'où proviennent les choses. Et parmi ces causes, les unes sont substantielles, les parties par exemple, les autres essentielles, ainsi le tout, la composition et la forme. Pour ce qui est de la semence, du médecin, du conseiller et en général de l'agent, toutes ces causes sont des principes de changement ou de stabilité. Les autres causes sont le but et le bien, toute chose. Cause finale signifie en effet le bien par excellence et le but des autres êtres. Et qu'on dise que cette fin c'est le bien réel ou que c'est seulement l'apparence du bien, peu importe. Tels sont les genres auxquels on peut réduire les causes. Les causes se présentent sous une multitude d'aspects, mais on peut réduire ces modes aussi à un petit nombre. Entre des causes qui s'appliquent à des objets de même espèce, on distingue déjà diverses relations. Elles sont antérieures ou postérieures les unes aux autres. Ainsi, le médecin est antérieur à la santé, l'artiste à son œuvre, le double et le nombre le sont à l'octave. Enfin, le général est toujours antérieur aux choses particulières qu'il contient. Polyclète est d'une façon et le statuaire d'une autre façon la cause de la statue. Ce n'est que par accident que le statuaire est polyclète. Puis, il y a ce qui contient l'accident. Ainsi, l'homme, ou même en remontant plus haut l'animal, est la cause de la statue, parce que Polyclète est un homme et que l'homme est un animal. Et parmi les causes accidentelles, les unes sont plus éloignées, les autres sont plus proches. Admettons qu'on dise que la cause de la statue c'est le blanc, c'est le musicien, et non plus Polyclète ou l'homme. Outre les causes proprement dites et les causes accidentelles, on distingue encore les causes en puissance et les causes en acte. Ainsi, l'architecte constructeur d'édifices et l'architecte construisant un édifice. Les mêmes relations qu'on observe entre les causes, on les remarque aussi entre les objets auxquels elles s'appliquent. Il y a la cause de cette statue en tant que statue et celle de l'image en général. La cause de cet airain en tant qu'airain et en général la cause de la matière. De même pour les accidents. Enfin, et les causes accidentelles et les causes essentielles peuvent se trouver réunies dans la même notion. Lorsqu'on dit par exemple non plus polyclète, non plus statuaire, mais polyclète statuaire. Les modes des causes sont en somme au nombre du 6, et ces modes sont opposés 2 à 2. La cause proprement dite est ou particulière ou générale. La cause accidentelle est aussi ou particulière ou générale. Les unes et les autres peuvent être ou combinées ou simples. Enfin, toutes ces causes sont en acte ou en puissance. Mais il y a cette différence entre elles que les causes en acte ainsi que les causes particulières commencent et finissent en même temps que les effets qu'elles produisent. Ce médecin, par exemple, n'est guérissant qu'autant qu'il traite ce malade. Et cet architecte n'est construisant qu'autant qu'il construit cette maison. Il n'en est pas toujours ainsi des causes en puissance. La maison et l'architecte ne périssent pas en même temps. Chapitre 3. On nomme élément la matière première qui entre dans la composition et ne peut être divisée en parties hétérogènes. Ainsi, les éléments du son, c'est ce qui constitue le son. Et les dernières parties dans lesquelles on le divise, parties qu'on ne peut plus diviser en d'autres sons d'une espèce différente de la leur propre. Si on les divisait, leurs parties seraient de même espèce qu'elles-mêmes. Une particule d'eau, par exemple, c'est de l'eau. Mais une partie de la syllabe n'est pas une syllabe. Ceux qui traitent des éléments des corps appellent aussi de ce nom les dernières parties dans lesquelles se divisent les corps, parties qu'on ne peut plus diviser en d'autres corps d'espèces différentes. C'est là ce qu'ils appellent éléments, soit qu'ils n'admettent qu'un élément, soit qu'ils en admettent plusieurs. Il en est à peu près de même pour ce qu'on nomme les éléments dans la démonstration des propriétés des figures géométriques. Et en général, pour ceux des démonstrations. Car les démonstrations premières et qui se trouvent au fond de plusieurs démonstrations sont dites éléments de démonstration. Ce sont les syllogismes premiers, composés de 3 termes dont l'un sert de moyen. De là, par métaphore, on appelle encore éléments ce qui étant un et petit sert à un grand nombre de choses. C'est pourquoi ce qui est petit, simple, indivisible est appelé élément. Par conséquent, les attributs les plus universels sont des éléments. Chacun d'eux est un et simple et existe dans un grand nombre d'êtres, dans tous ou dans la plupart. Enfin, l'unité et le point sont suivant quelques-uns des éléments. Les genres sont universels et de plus indivisibles, car leur notion est une. Aussi, quelques-uns prétendent-ils que les genres sont des éléments plutôt que la différence, parce que le genre est plus universel. Partout, en effet, où il y a différence, là se montre le genre. Mais là où il y a genre, il n'y a pas toujours différence. Du reste, le caractère commun à tous les éléments, c'est que l'élément de chaque être, c'est son principe constitutif. Chapitre 4. Nature se dit d'abord de la génération de tout ce qui croit. Par exemple, lorsqu'on prononce longue, la première syllabe du mot grec, ensuite de la matière intrinsèque d'où provient ce qui naît. C'est en outre le principe du premier mouvement dans tout être physique, principe interne et attaché à l'essence. Et l'on nomme croissance naturelle d'un être l'augmentation qu'il reçoit d'un autre être, soit par son adjonction, soit par sa connexion, soit comme les embryons par son adhérence avec cet être. La connexion diffère de l'adjonction en ce que, dans ce dernier cas, il n'y a qu'un simple contact, tandis que dans l'autre cas, il y a dans les deux êtres quelque chose qui est un, et qui, au lieu d'un contact, produit leur connexion et fait de ces deux êtres une unité sous le rapport de la continuité et de la quantité, mais non pas cependant sous le rapport de la qualité. Nature se dit de plus de la substance brute, inerte et sans action sur elle-même, dont se compose ou dont est fait un être physique. Ainsi, les reins est la nature de la statue et des objets des reins, et le bois celle des objets de bois, de même pour les autres êtres. C'est cela, c'est cette matière première et persistante qui constitue chacun d'eux. Par suite de cette considération, nature s'entend aussi des éléments des choses naturelles. Ainsi s'exprime et ceux qui admettent pour éléments ou le feu, ou la terre, ou l'air, ou l'eau, ou quelques principes analogues, et ceux qui admettent plusieurs de ces éléments, ou tous ces éléments à la fois. Sous un autre point de vue, enfin, la nature, c'est l'essence des choses naturelles. Telle est l'acception que lui donnent ceux qui disent que la nature est la composition primitive, ou avec Empédocle, qu'aucun être n'a réellement une nature, mais que le mélange et la séparation des choses mélangées, voilà tout ce qu'il y a, et que c'est là ce que les hommes appellent nature. C'est pour cela, selon eux, que tout objet qui est naturellement, ou qui déjà devient, et qui possède en soi le principe naturel du devenir ou de l'être, nous ne disons pas qu'il a une nature quand il n'a pas encore d'essence et de forme. C'est donc la réunion de l'essence et de la matière qui est la nature des êtres. Telle est celle des animaux, celle de leurs parties. Mais il faut dire que la matière première est une nature, et qu'elle peut l'être sous deux points de vue, car elle peut être ou première relativement à un objet, ou absolument première. Ainsi, pour les objets dont la substance est l'airain, c'est l'airain qui est premier relativement à ces objets. Mais absolument, c'est l'eau peut-être, s'il est vrai que l'eau est le principe de tous les corps fusibles. Et il faut ajouter que la forme et l'essence sont encore une nature, car elles sont le but de toute production. Par métaphore enfin, toute essence prend en général le nom de nature à cause de celle dont nous parlons, car la nature est, elle aussi, une sorte d'essence. Il suit de tout ce qui précède que la nature première, la nature proprement dite, est l'essence des êtres qui ont en eux et par eux-mêmes le principe de leur mouvement. La matière ne s'appelle en effet nature que parce qu'elle est capable de recevoir en elle ce principe, et la génération ainsi que l'accroissement que parce que ce sont des mouvements produits par ce principe. Et ce principe du mouvement des choses naturelles réside toujours en elle, soit en puissance, soit en acte. Chapitre 5. On nomme nécessaire la cause coopérante sans laquelle il est impossible de vivre. Ainsi, la respiration et la nourriture sont nécessaires à l'animal. Sans elles, il lui est impossible d'exister. Ce sont encore les conditions sans lesquelles le bien ne saurait ni être ni devenir, ou sans lesquelles on ne peut ni se garantir d'un mal, ni s'en délivrer. Il est nécessaire, par exemple, de boire le remède pour n'être pas malade, de faire voile vers Égine pour recevoir l'argent. C'est ensuite la violence et la force, c'est-à-dire ce qui nous empêche et nous arrête, malgré notre désir et notre volonté, car la violence se nomme nécessité. Et par suite, la nécessité est une chose qui afflige, comme le dit Vénus, toute nécessité est une chose affligeante. Enfin, la force est une nécessité. Écoutons Sophocle. C'est la force qui m'oblige nécessairement à agir ainsi. La nécessité présente l'idée de quelque chose d'inévitable. Et c'est avec raison, car elle est l'opposé du mouvement volontaire et réfléchi. De plus, quand une chose ne saurait être autrement qu'elle n'est, nous disons, il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Et cette nécessité est en quelque sorte la raison de tout ce qu'on appelle nécessaire. C'est en effet quand le désir ne peut atteindre son objet par suite de la violence qu'on dit qu'il y a eu violence faite ou soufferte. La nécessité est donc à nos yeux ce en vertu de quoi il est impossible qu'une chose soit autrement. Même observation pour les causes coopérantes de la vie, ainsi que pour le bien. Car c'est lorsqu'il y a impossibilité, soit pour le bien, soit pour la vie et l'être, d'exister sans certaines conditions, que ces conditions sont nécessaires et que la cause coopérante est une nécessité. Enfin, les démonstrations des vérités nécessaires sont nécessaires parce qu'il est impossible, si la démonstration est rigoureuse, que la conclusion soit autre qu'elle n'est. Les causes de cette impossibilité, ce sont ces propositions premières, qui ne peuvent être autres qu'elles ne sont, qui composent le syllogisme. Parmi les choses nécessaires, les unes ont en dehors d'elles la cause de leur nécessité. Les autres, au contraire, l'ont en elles-mêmes. Et c'est d'elles que les premières tirent leur nécessité. De sorte que la nécessité première, la nécessité proprement dite, est la nécessité absolue, car il est impossible qu'elle ait plusieurs modes d'existence. Elle est donc la nécessité invariable. Autrement, elle aurait plusieurs modes d'existence. Sinon qu'il y a des êtres éternels et immuables, rien ne peut leur faire violence ou contrarier leur nature.